France Culture. Bonjour Patrick Baudry.
Bonjour Meryl et bonjour toutes et tous.
Pilote de chasse, pilote d'essai, passionné de moto, vous devenez cosmonaute à la Cité des Étoiles aux côtés de Jean-Loup Chrétien, qui sera le premier Français à aller dans l'espace avec les Soviétiques en 1982. Vous êtes alors sa doublure avant de séjourner à votre tour dans l'espace. Lors de votre mission à bord de la navette américaine Discovery, entre le 17 et le 24 juin 1985, votre dynamisme et votre sourire séduisent le public. Vous êtes alors le premier Français à voler avec les Américains. Sur nos écrans, à la une des journaux de l'époque, vous apparaissez tantôt dans votre combinaison bleu clair avec vos macarons NASA, CNES et le drapeau français cousu sur votre bras, votre casque d'astronaute à la main, tantôt en polo sombre, bardé aussi de macarons, portant un short court bleu pâle, comme pour aller courir et patché de tous les côtés, le corps flottant en apesanteur, mais aussi les yeux pétillants et à la fois tout en concentration sur vos expériences dans l'espace. Rigoureux, sportif, jovial, direct, après ce vol américain qui a fait de vous une vedette, votre carrière de conférencier s'envole en parallèle de votre métier et vous ne cesserez dès lors d'aller parler de votre expérience et des enjeux de la conquête de l'air et de l'espace et du défi de continuer les vols habités, sinon l'exploration spatiale toujours plus loin. À titre personnel, passionné par l'aérospatial et déjà la vulgarisation scientifique et technique, j'avais 14 ans quand je vous ai vu dans ce savoureux exercice aux côtés d'autres collégiens à Grand-le-Brun, mon école, le 25 avril 1986 à Bordeaux. L'écrivain François Mauriac, qui a été votre illustre prédécesseur à Grand-le-Brun, a évoqué quant à lui dans ses mémoires à la fois la magie des lieux, certains professeurs brillants, et la cruelle école des préséances en milieu bourgeois. Au mi-temps des années 1980, le mystère Frontenac de François Mauriac côtoie les films Top Gun et L'étoffe des héros, et vous êtes devenu une figure inspirante aux côtés du prix Nobel de littérature. Mais vous, bien vivant et auréolé de vos succès de pilote-astronaute, vous nous aviez bien fait rire en rappelant que le brillant élève que vous étiez, bardé de prix, avait réussi l'exploit de rater son bac. Vous savez mettre en valeur les vertus de l'échec, de la discipline et du goût du risque. N'y a-t-il pas là la clé du progrès, du renouveau et des réussites ? Nous allons voir aujourd'hui comment vous avez pu faire les quatre son coup avant de décrocher les étoiles et de réaliser votre rêve de voler. Premier épisode des 5 à venir, d'aventure en aventure. Et une première question, Patrick Baudry, si je vous dis petit déjeuner en Amérique, qu'allez-vous décliner comme souvenir ?
Breakfast in America, c'est la chanson que j'écoutais pratiquement chaque jour quand j'étais dans l'espace. Et donc, dès que vous avez prononcé le titre, aussitôt, je suis un peu reparti là-haut, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'était avoir ce privilège de voler dans l'espace, c'est superbe. Je peux pas imaginer une expérience plus extraordinaire pour un être humain, vraiment. Et je vois le privilège que j'ai eu. Vraiment, ça a été une parenthèse très très heureuse dans ma vie.
J'évoquais votre sourire sur les photos et il y a une sorte de joie, enfin de liberté hein, qu'on sent quand on consulte les images. Et ce qui m'a frappé en préparant notre série d'entretiens, c'est que ce sourire, cette joie, cette expression de la liberté en apesanteur, d'autres astronautes aussi ont pu l'évoquer dans leurs souvenirs. Je pense à l'astronaute française qui a été la première femme européenne aussi à partir dans l'espace. Claudie Aigneret en parle et elle dit ce qui me frappe dans les vidéos justement, c'est le sourire et elle a l'impression qu'elle n'a jamais été aussi souriante que dans l'espace. Et elle a le sentiment en plus que ce sourire que vous donniez depuis les images filmées, soit dans la navette ou dans les stations spatiales, sont aussi inspirantes.
Oui, alors je ne sais pas pour Claudie, mais quant à moi, c'était le bonheur absolu, quoi. J'ai toujours rêvé de voler. Et j'avais pu déjà voler sur beaucoup de machines qui m'ont vraiment enthousiasmé. Mais là, cette fois-ci, c'est le vol absolu, quoi. C'est le vol, c'est la liberté absolue. Et je crois que le sourire, enfin ce sentiment de bonheur qu'on ressent en nous voyant là-haut, pour la plupart d'entre nous, hein, c'est dû à ça. C'est dû à ce que on se sent vraiment libre. On peut se mouvoir, on ne pèse plus rien. C'est quelque chose qui est très particulier, quoi. C'est vrai, et c'est une caractéristique importante du vol spatial. L'autre étant l'endroit où on se trouve, mais l'impesanteur et ce bonheur qui vient de cette légèreté totale et de cette liberté absolue, c'est quelque chose de très particulier, quoi. C'est vrai que c'est. Alors on peut éprouver ça en faisant des vols en 0G.
Oui.
Hein, pendant quelques secondes, mais enfin, ça n'a pas grand-chose à voir, parce que le vent 0G, c'est comme un tour de manège. C'est une parabole qu'on fait dans un avion qui lui-même effectue une parabole. En fait, on le met sur une trajectoire, on coupe tout et il tombe. Et quand il faut le récupérer avant qu'il tombe vraiment en rencontrant un obstacle, bah, à ce moment-là, c'est la ressource et les 2G qui suivent le 0G. Et c'est vrai que ce 0G-là, il est... Il a pas grand chose à voir. C'est plus un tour de manège que vraiment quelque chose qui est lié à l'espace. En fait, l'espace, il y a peu de gens qui ou le comprennent ou se sont posé la question. C'est simplement le fait de tomber en ratant la Terre.
Oui.
La Terre étant ronde. Là-haut, on acquiert cette vitesse qui est de à peu près 29 000 km/h. Et à cette vitesse, on tombe selon une courbe qui est la courbure de la Terre. Donc on tombe en ratant la Terre. Si on a une vitesse plus grande, on va tomber, mais on ira au-delà de la Terre, au-delà de l'orbite terrestre. Et on rattrapera, par exemple, une orbite lunaire.
Voilà,
et à ce moment-là, on tournera autour de la Lune. Et le jour où certains auront le bonheur d'aller encore plus vite, ils iront rencontrer la gravité qui existe autour de Mars. Et ils sont sur une orbite martienne.
Voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment s'affranchir de la gravité? Est-ce
ah oui.
que voilà, c'est on peut
ah oui,
on
oublie,
peut garder la,
on
l'expression.
On oublie complètement la gravité. C'est la différence avec le vol 0G qu'on peut faire, bon, quelques secondes qu'on fait pour s'entraîner, mais enfin plus pour des actions, disons que, ou plus pour s'amuser d'ailleurs, parce que en fait, un vol en 0G, c'est-à-dire 20 secondes ou 25 secondes en impesanteur, c'est un gadget. Par rapport à un vol spatial. Il faut bien comprendre ça. Souvent, on compare les deux choses. Oui. À mon sens, elles ne sont pas comparables. Elles sont comparables physiquement, instantanément, mais émotionnellement et humainement, elles ne sont pas comparables.
Et puis après, il y a aussi, vous disiez, le décor dans lequel vous êtes, parce qu'il y a à la fois l'apesanteur et puis le fait que vous avez le hublot, et qu'en plus, il y a le spectacle qui est absolument inouï, enfin le noir qui est plus noir, enfin dans les descriptions, et puis la Terre enfin, qu'on voit de l'extérieur. Et vous parlez de cette magie de la Terre vue de l'espace et des sensations visuelles en plus qu'on peut avoir en dehors de celles de
alors,
l'apesanteur.
La Terre vue de l'extérieur, c'est le deuxième paramètre extrêmement important lorsqu'on est dans l'espace. C'est le fait de voir sa propre planète de l'extérieur, donc, et de voir qu'elle est complètement isolée sur un fond qui est un noir absolu et infini, et qu'elle est d'une splendeur extraordinaire, quoi. C'est une beauté extraordinaire. Donc vous avez cette planète qui est la vôtre, qui est d'une beauté magique et qui est seule sur un fond absolument noir et immense. Et ça, émotionnellement, c'est quelque chose, bien sûr, mais je dirais que philosophiquement ou intellectuellement, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire, on se rend compte que l'on n'est rien. D'ailleurs, sur Terre, il n'y a aucune trace de l'homme. Évidemment, on voit les canals de Suez, des choses comme ça. Mais quand on la regarde d'une manière globale, il n'y a aucune trace de l'homme. Donc elle est belle par elle-même. Et donc on se rend compte qu'on n'est rien. Et c'est quelque chose qui est important. Je crois que c'est certainement la chose la plus importante que peut nous amener un vol spatial. C'est avoir cette possibilité de voir sa planète de l'extérieur et se rendre compte qu'on n'est rien. Alors que quand on vit sur Terre, on voit notre monde à travers nos yeux, une image qui se forme au niveau du cerveau. On est le centre du monde. Là-haut, on n'est plus le centre du monde. On n'est plus rien. Et ça nous rend d'une humilité absolue. Et je pense d'ailleurs, ça serait bien d'envoyer quelques hommes politiques là-haut, parce que ça leur ferait le plus grand bien. Et pour certains de les y laisser, ça serait le plus grand bien pour ceux qui vivent sur Terre.
Et d'ailleurs, enfin, dans les interviews, vous regrettez que artistes, philosophes, écrivains ne partent pas. Et j'ai regardé là pour le concours de l'ESA, ils font un master. Enfin, ce sont des scientifiques. Et effectivement, c'est quand même limité qu'à une partie de l'humanité.
Moi, ça fait 30 ans, même plus, que je milite pour qu'on envoie là-haut d'abord des artistes, bien sûr, parce qu'ils ont une appréhension du monde qui est très intéressante, des écrivains, toutes sortes de vocations. Et si on avait pu les envoyer là-haut depuis une trentaine d'années, ça aurait été plus intéressant qu'envoyer des professionnels qui reviennent en disant toujours la même chose, quoi. J'ai beaucoup travaillé, c'était merveilleux, enfin, je veux dire, encore heureux, quoi. Moi, je considère que l'espace circumterrestre, celui qu'on utilise en ce moment avec l'ISS, cette espèce d'absurdité qui tourne autour de la Terre, il est seulement important sur le plan humain. Et quand on dit humain, évidemment, on ne différencie pas les catégories d'êtres humains. Et notamment, j'ai toujours milité pour qu'on envoie des gens qui ont un handicap.
Oui. Là, vous avez été entendu. Il y a un champion paralympique qui devient astronaute, enfin.
Oui, oui, mais aujourd'hui, il a fallu qu'on attende 30 ans pour ça.
Oui, oui, oui.
Pourquoi on a attendu 30 ans? Si on n'avait pas livré le vol circumterrestre à des gens qui manquent d'imagination et de poésie et qui sont justement des scientifiques pour la plupart, concentrés sur leur sujet, on aurait pu faire de plus belles choses. Maintenant, on les fera d'ailleurs. Et ça, c'est extrêmement positif. Moi, je crois que les professionnels, scientifiques, pilotes, enfin, ce que vous voulez, il faut les envoyer dans l'espace pour vraiment découvrir quelque chose. Vous voyez? Là où ils sont vraiment utiles pour gérer une machine complexe, pour gérer des événements inattendus et très difficiles à gérer, à ce moment-là, ils ont un rôle. Mais pour tourner autour de la Terre, c'est pathétique.
Justement, j'aimerais qu'on prenne une petite minute pour revenir sur une des grandes figures du spatial. Et on va retrouver à la fois l'implication, l'innovation et le sourire. Je pense à la figure de Gagarine, de Youri Gagarine. Et il y a un portrait que vous saluez. Ouais. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais voilà, c'est un de nos héros, enfin de vos héros, et aussi de nos héros mondiaux. Et c'est vrai qu'en préparant et en lisant donc les témoignages de cosmonautes, d'astronautes, le sourire de Gagarine, quand on pense à la pesanteur et au spectacle de la Terre, il prend un autre sens parce que on peut se dire oh ben voilà c'est le sourire du cosmonaute qui revient sur Terre et puis il y a l'opération de communication parce que la communication a toujours été là très très tôt hein, parce que c'est un acte politique aussi d'aller de démonstration de puissance, mais au fond je me dis ce sourire de Gagarine, il va plus loin. Et après, dans l'hommage que vous rendez à Youri Gagarine, c'est aussi celui d'hommes qui étaient impliqués dans le programme. Dans un de vos livres aussi, vous citez la bronca des premiers astronautes américains. La première fusée qu'on avait prévue pour eux, il n'y avait pas de hublot pas de manche d'avion. Donc, ce qui est complètement fou, d'impliquer aussi, parce qu'en plus, là, à l'époque, c'était plutôt des pilotes de chasse, des pilotes d'essai, des profils comme le vôtre, et de pouvoir être impliqué aussi dans le vol et d'avoir une approche plus interdisciplinaire aussi.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Moi, j'ai eu la chance de connaître pratiquement tous les compagnons de Gagarine, parce que Gagarine, hélas, a disparu prématurément, disons, dans un accident d'avion. Et donc, tous ses camarades, tous ses copains de l'équipe, là, Leonov, Kubasov, enfin, toute la bande. Mais ce qui m'a frappé, c'est que tous disaient qu'il était lumineux, quoi. Il souriait tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais presque. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Ça doit être quelqu'un d'extrêmement attachant, d'extrêmement modeste, en même temps qu'il avait une compétence extraordinaire, puisqu'il a quand même été choisi pour être le premier à partir là-haut. Et donc, c'était quelqu'un humainement...
Au début des années 60, hein, donc ouais, il y a eu Sputnik, voilà, en
12 avril 61, oui. Et c'est vrai que... Bon, c'était une phase de l'histoire de la cosmonautique extrêmement riche, et de l'astronautique aussi, chez les Américains, parce qu'à cette époque, c'était une histoire de conquête. C'était une histoire d'aller quelque part où personne n'avait jamais été, et où personne ne savait exactement comment ça se passerait. Donc il y a eu deux grands moments, celui du vol de Gagarine en avril 61 et celui du vol d'Armstrong et Aldrin en 1969. Ça, c'était vraiment deux moments que j'ai vécu, moi étant enfant et élève pilote à l'époque. Et vraiment, c'était des moments très particuliers. Et j'ai eu la chance de connaître Neil Armstrong et puis tous les...
Buzz Aldrin,
bien sûr, qui est un ami, qui est toujours vivant. Qui a une pêche incroyable d'ailleurs. On le salue au passage, salut Buzz. Et vraiment, c'est des gens extraordinaires. Comme quelqu'un aussi que je ne peux pas ne pas saluer, c'est John Young, qui pour moi est l'astronaute le plus extraordinaire aujourd'hui encore vivant. Et John Young, c'est un professionnel exceptionnel, quoi. C'est quelqu'un qui a fait le premier vol de la navette, qui a fait Gemini, qui a été sur la Lune, bien sûr. Et donc, c'était vraiment des gens extraordinaires, qu'on peut pas comparer avec nous, parce que nous, on est d'une autre génération, on est d'une autre époque, et encore moins avec ceux qui vont dans l'espace aujourd'hui, parce que ça s'apparente plus au tourisme qu'à quelque chose de vraiment difficile. Vous voyez, on a changé d'époque. Oui. Ce qui serait difficile aujourd'hui, c'est d'aller sur Mars.
Oui.
Ou même d'aller encore,
sur la Lune.
Ou d'aller sur la Lune, absolument.
On voit que ça reste
Et c'est pour compliqué. Ça j'attends avec impatience le moment où on reprendra la conquête spatiale et qu'on a interrompu depuis 30 ans maintenant pour aller s'installer sur la Lune définitivement et y faire des choses importantes et utiles et puis aller poser le pied sur Mars.
Alors c'est l'objectif, on reviendra sur toutes ces questions tout au long de cette semaine et des 5 entretiens. Là, vous avez évoqué votre enfance, vous êtes une génération en fait avant Gagarine et Neil Armstrong, puisque là vous êtes plutôt au moment des études, hein, quand il y a cette épopée. Et du coup, vous êtes plutôt du côté de l'aéronautique, votre papa était ingénieur météo. Du coup, vous avez aussi un lien avec le continent africain parce que vous êtes né en 1946 à Douala. Vous avez vécu aussi à Casablanca, à Alger, avant d'arriver à Bordeaux et Mérignac. Voilà, donc vous êtes allé d'aéroport en aéroport. Et c'est là que vous avez pris le goût de l'envol, du vol, des avions. Quel est votre premier souvenir d'aéroport que vous avez ? Parce que vous dites dès 4 ans. J'ai envie de voler.
Oui, le premier souvenir d'aéroport que j'ai, c'est à Alger, à Maison-Blanche, l'aéroport, et d'un Nord Atlas qui tournait, qui démarrait ses moteurs. Et moi, j'étais fasciné, je regardais ça et je voyais l'équipage à l'intérieur. Je leur fais bonjour et ils ont répondu à mon bonjour alors que j'étais un gamin, quoi.
Alors, le Nord Atlas, il faut quand même le décrire, c'est un gros appareil où on peut emmener des troupes, où on peut sauter, et qui a été très célèbre dans les années 50-60 en particulier.
50-60, 70
encore, il y a une sorte de fenêtre pour voir les cartes, pour faire les étoiles, la navigation aux étoiles.
Certains, oui, non. Pas l'avion de série.
Pas
ça
l'avion de
déjà
série.
Déjà transformé.
Oui.
Alors, là, j'ai volé sur d'autres avions qui avaient ça, notamment celui qui nous a permis de traverser l'Atlantique sud pour rendre hommage à Mermoz, et un Catalina qui avait aussi un poste d'observation extraordinaire. Il y avait une couchette, une grande bulle qui devait faire 2 mètres de long, et on prenait la couchette et on regardait dehors le sol, le ciel, tout. Non, il y avait des beaux avions, il y en a toujours, hein, mais bon. Aujourd'hui, on est plus orienté rentabilité, consommer le moins de carburant possible, aller le plus vite possible. Et voilà. J'ai toujours été confondu par le fait que on a développé toutes sortes d'avions pour permettre à des gens d'aller bronzer toujours plus loin. Ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Je me suis dit, finalement, j'ai perdu ma vie, quoi. Des fois, je me dis, on a fait toutes sortes de beaux avions, mais ils servent à quoi ? Aujourd'hui, disons, le transport aérien est tellement entré dans les mœurs, c'est un peu comme prendre le métro, quoi. Oui. Et ce sont les hublots, et il y en a peu par rapport au nombre de passagers, donc il y a très peu qui peuvent regarder dehors.
Ah, mais alors peut-être qu'il faut militer pour faire plus d'hublots, peut-être qu'il faut faire comme les astronautes, se révolter.
Oui. Là, c'est ce que j'ai essayé de faire à Airbus, qu'on développe un avion avec beaucoup plus d'espace vitré pour que les passagers, quoi, les gens puissent plus profiter du spectacle, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un marché pour ça. J'en suis convaincu, mais c'est plus une niche qu'un marché global. Donc, c'est intéressant.
Ouais, et puis aussi pour être inspiré, parce que vous le dites, enfin, vous avez une envie que de pousser l'homme plus loin. Et effectivement, il faut l'argent, il faut le système financier, mais il faut aussi l'imagination. Et si on ouvre des fenêtres, si on donne des moyens de respirer et de voir plus grand, on peut déployer son imagination. Donc peut-être que pour la prochaine révolution culturelle, ça peut passer par plus de hublots et plus de vues de hauteur de la Terre.
Oui, enfin, si on revient au Caucase, à Casa et à Maison Blanche à Alger, l'aviation a vraiment complètement changé, quoi. Et aujourd'hui, à chaque fois que je prends l'avion, et je le prends hélas très très souvent pour me déplacer, hein, bien sûr, mais pas en pilote, c'est un martyr, quoi. C'est un parcours du combattant, quoi. Je préfère partir avec ma moto. Quand je vais en Italie, je prends ma moto. Je prends plus l'avion. C'est tellement... peut-être parce que je suis trop habitué à piloter les avions et à pas regarder ce qui se passe derrière, mais quand même...
Justement, vous continuez encore, parce que je vous pose la question là aujourd'hui, parce que en 2005, dans une interview, vous disiez que vous arrivez encore de piloter des avions, et que d'ailleurs vous espériez que dans 10-15 ans, vous pourriez peut-être partir sur la Lune. Bon, là...
J'espère toujours. John Glenn est allé dans l'espace à 77 ans.
Hein. Oui, avec...
Moi, j'en ai que 79, donc je suis encore jeune. Donc, tout est possible.
Et en pleine forme.
Mais je pense pas qu'un Français, il suffit d'avoir les moyens. Je les ai pas, donc, mais autrement, je partirais bien dans l'espace si j'avais une dizaine, une vingtaine de millions d'euros à investir là-dedans, quoi, c'est clair. Mais je suis pas du tout amer que les gens qui vont dans l'espace aujourd'hui, ils vont parce qu'ils peuvent se payer le vol d'une manière ou d'une autre. Je trouve ça très très bien, au contraire. Parce que je pense que ces gens-là ont sur le plan humain un regard un peu différent. Et donc c'est très enrichissant pour eux-mêmes et pour tout le monde. Mais quand même, non, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas poursuivi la conquête, quoi.
Oui.
Et donc moi, très vite, je suis reparti vers les avions, aérospatial et Airbus, pour faire des avions, parce que, étant français, j'ai compris après mon vol que les Français n'avaient aucune place vraiment active, vraiment majeure dans les vols spatiaux. Mais je pensais sincèrement à cette époque que on irait s'installer sur la Lune en 90, 95.
Oui.
Vraiment. Pour moi, c'était une certitude. Et qu'on irait sur Mars avant 2010. Puis là, on est en 2025, il ne s'est rien passé, quoi.
Oui, puis là, avec le contexte de la guerre hybride, comment ça va peser sur l'économie, sur la production, sur les projets, c'est compliqué. Mais J'aimerais revenir sur les dernières minutes de l'émission, sur peut-être votre papa, donc ingénieur météo, oui. Et votre maman, et puis on poursuivra ce fil là des aéroports et de cette installation sur le continent africain. Est-ce que vous savez ce qui les avait poussés à partir au loin? Vous avez échangé avec eux sur le sujet?
Oui, mais mon père était ingénieur météo et pendant la guerre, et il était officier de réserve, et il était au Cameroun. C'est pour ça que je suis né au Cameroun. C'est le seul pays d'Afrique que je connais pas bien, d'ailleurs, le Cameroun. C'est curieux. On est parti, j'avais 2 ans, et on était donc à Casablanca. Et donc, il a été affecté à Casablanca, il était à Casa, après il était à Alger, puis après il était à Mérignac. Donc, c'est une carrière d'ingénieur météo, de fonctionnaire de l'État, qui suit les différents postes en fonction de l'avancement de sa carrière. Donc là, c'est quelque chose de naturel. Moi, ça m'a permis de connaître très bien l'Afrique du Nord, mais pas l'Afrique noire. L'Afrique noire, je la connais depuis 20 ans, depuis que je suis ambassadeur de l'UNESCO, je vais dans tous les pays pour faire des choses pour les enfants ou autres, et là, je connais mieux l'Afrique noire.
Oui, parce que vous êtes toujours très engagé. On a évoqué la figure de votre école d'adolescence, hein, en Grand-Lebrun. Vous avez été élève entre 57 et 64, de la 6e à la terminale. Et vous êtes très engagé sur le fait d'accompagner les enfants et aussi de toute classe. Vous avez eu un projet d'école aussi à Bordeaux, à Cadix.
À Cadix, oui.
Et de pouvoir aussi donner sa chance à des élèves qui pouvaient avoir un parcours scolaire plus difficile et de pouvoir quand même trouver sa voie.
Ça m'est venu très vite après mon vol. Je rencontrais beaucoup d'enfants, je faisais des interventions dans les écoles et autres. Et lorsqu'ils me posaient des questions, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas de rêve pour beaucoup d'entre eux, même la plupart d'entre eux. Donc ils passaient le bac, par exemple, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire après. Et pour moi, c'était une révélation. Je me dis, la chance que j'ai eue toute ma vie, c'est que j'avais ce rêve que je poursuivais. À partir du moment où on a un idéal, un objectif, la vie devient facile. Parce que on fait les choses pour aller vers son idéal. Et donc c'est pour ça qu'après j'ai fait beaucoup d'actions, j'ai créé des établissements scolaires ou autres pour les enfants, pour justement les aider à trouver le rêve qu'ils ont en eux. Parce que pas pour aller dans l'espace, bon, si c'est ça, pourquoi pas. Hein. Mais le rêve qu'ils ont en eux, c'est ce qui est le plus important de leur faire découvrir.
Et justement, ce rêve, on va le retrouver demain dans l'épisode qui sera intitulé « À toute vitesse ». Et on verra comment vous avez réussi à devenir pilote de chasse, pilote d'essai, et en parallèle à vivre votre passion pour la vitesse et pour les motos. Merci beaucoup Patrick Baudry.
Merci, à demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Guillaume Baldi, documentaliste Anne-Lise Signoret et Christine Anzano, une série de Meryl Moneghetti, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.